Noël, tu vas nous parler de son confrère.
De mon confrère, ami, compagnon. C'est dur de parler après tout le monde, parce que j'ai l'impression que tout a été dit et que je vais répéter. Alors je répète, je m'enfonce dans les ornières. Je voudrais parler, moi, de mon parcours personnel et sensible dans cette écriture qu'on a vue archi cultivée et en même temps, pour moi, extrêmement paradoxale. J'ai rencontré Eugène, je crois que c'était en 87, et notre rencontre est très étonnante. Voilà. Et c'était à Limoges, dans une foire qui ressemblait à une foire littéraire et une foire à la saucisse en même temps. On avait déporté un certain nombre d'auteurs dont j'étais, auteurs connaissants. Je débarque à Limoges et je croise un auteur que je connais à ce moment-là, que je ne connaissais pas, qui s'appelle Armando Llamas, et qui me dit, j'attends quelqu'un que j'aime beaucoup, un homme extrêmement intéressant, un poète, Eugène Durif. Je m'entends pour la première fois Eugène Durif, un poète, donc j'étais extrêmement impressionnée par ce mot de poète que j'attends de voir, et je vois Eugène, et je me dis, ben voilà, un drôle de poète. Et effectivement, c'est un drôle de poète puisque il dit détester la poésie, et il ne se cache pas. En tout cas, celle-ci, cette poésie qu'il appelle, cette prière de l'âme qui s'adresse à l'humanité entière, ou alors à ce vrai dégueulis de l'âme, ce qu'il écrit dans Saletan pour les vivants, donc dans le roman qu'il a publié l'année dernière chez Flammarion, où effectivement la poésie en prend pour son compte. Je lis, après avoir rencontré Eugène, je crois que le premier texte que je lis, c'est Une manière noire, le texte dont Michel a parlé tout à l'heure, qui est un texte en prose. Et Une manière noire, ça colle effectivement. C'est quelque chose qui a avec la trace, avec la gravure. Avec, donc, je me disais tout à l'heure, il y a une chose qui est extrêmement intéressante dans l'œuvre d'Eugène, on pourrait prendre ses titres. Et ces titres, à eux seuls, seraient déjà une radiographie de son œuvre. Ça divague, ça se croise, ça vogue, il y a des naufrages, il y a du meurtre, il y a du hors-champ, il y a de la manière, et en même temps c'est noir, et en même temps ça grave, ça creuse, etc. On pourrait comme ça les aligner et avoir une sorte de beau paysage de tout ce qu'il a écrit. Donc c'est ma première rencontre avec cette écriture stratifiée. Je lis une prose discrète, une prose à dire tout haut, mais pas trop haut encore, ça chuchote pas mal, le premier texte que je lis d'Eugène. Et en même temps, je me dis, c'est quelque chose, c'est une prose sensible, élégante, mais qui cache quelque chose, comme l'homme me semblait cacher quelque chose, tout ça. C'est dehors timide, gentil, etc. Je dis pas qu'il cache des lingots ou des passions inavouables, mais il cache des choses qui se passent. Alors à Limoges, on s'est foire à la saucisse, on a effectivement été 3 ou 4 à Rodé Llamas, Eugène et moi, on est parti, on a lâché la foire à la saucisse, on a joué les rebelles, et je me suis dit, ben voilà ce que cache déjà la gentillesse d'Eugène. Et derrière ça, un homme rebelle, en rébellion ouverte, et puis un homme imprévisible. Comme son écriture est imprévisible, c'est-à-dire qu'il n'est jamais là où on l'attend. Ce que disait tout à l'heure Michel Corvin, méfiez-vous de Jeanne Durif, c'est exactement ça. Donc je pressens dans cette écriture de la manière noire, qui est extrêmement élégante, une élégance factice, car je pressens déjà une maladie, quelque chose qui est une langue un peu malade, une écriture qui s'ouvre sur des gouffres, des fêlures. Je le pressentais et j'en ai la certitude en lisant Le Petit Bois, où je suis sûre que c'est une écriture qui recèle une grande fracture. Donc, sous des allures de faits divers rurales et de flonflon, de fêtes foraines, il y a effectivement, je m'aperçois à ce moment-là en lisant ce texte, que c'est une écriture à entrailles. C'est-à-dire qu'elle a des entrailles, il faut aller voir sous ses entrailles ce que ça, dans ses entrailles ce que ça recèle. Et on y voit effectivement de la violence, de la cruauté, de la douleur, de la terreur et même de l'innommable. Et toute l'œuvre d'Eugène, à mon sens, recèle ça, cet innommable qui est caché et qui affleure de temps en temps et rarement. Donc c'est une écriture qu'il faut creuser, puisque rien n'y affleure, il faut l'étriper. Et il faut, elle le demande d'ailleurs, elle demande à ce qu'elle soit, à ce qu'on lui fasse sortir ce qu'elle a effectivement dans la. Alors, effectivement, je lis aussi, je vois une langue imposante, avec un drôle d'essoufflement. C'est une langue assez longue, une langue spiralée, vertigineuse, qui a, pour moi, qui fonctionnerait un petit peu comme une vis dont la pointe s'enfonce quelque part. Donc elle s'enfonce tout doucement, comme ça, avec ses spirales, et puis ses souffles, comme ça, qui n'en finissent pas. Et c'est cette vie s'enfonce dans la mémoire, dans le passé, ce qu'on a dit, dans un territoire, dans la terre, dans l'enfance, dans l'histoire intime et l'histoire commune, l'histoire où il y a effectivement des gelées matinales. Et on pourrait le prendre, évidemment, c'est plus le froid que les confitures du matin, évidemment. Voilà pour ce que je commence à lire. Et puis. On me dit aussi, c'est un homme de théâtre. Parce qu'Armando Llamas ne m'a pas dit, c'est un homme de théâtre, c'est un écrivain, c'est un auteur de théâtre. Pas du tout, il m'a d'abord dit un poète. Et puis, Eugène se dit lui-même homme de théâtre. Et je me dis, tiens, voilà, un homme de théâtre qui n'aime pas le théâtre. Et un homme de théâtre qui, en tout cas, qui s'en méfie. Et les premiers textes, évidemment, c'est ce que disait Micheline aussi, ça ne fait pas du théâtre, ça n'est pas du théâtre. Moi, je n'entends que ça. Je pense que c'est plus une écriture qui se méfie du drame et qui se méfie du théâtre que, en tout cas, d'un certain théâtre. Elle se méfie du théâtre au sens académique, au sens canonique, parce que les codes sont, comme a dit Michel, entièrement bouleversés. Et je pense que Eugène, au début, neutralise le théâtre, l'ignore totalement. Et puis petit à petit, le recopier. Parce qu'à mon avis, il s'en méfie tellement du drame et du théâtre qu'il va chercher des modèles. Et donc, il va les absorber, les aborder, il va les prendre. Chaque texte nouveau reprenant à son compte les questionnements qui ont produit les textes antérieurs. Et souvent, un texte est la conjonction de. J'irais des travaux de gènes plus antérieurs, comme par exemple Mort hors champ, c'est effectivement la conjonction du cinéma et de la mythologie, mais de la tragédie, mais en même temps, c'est aussi le travail que tu menais sur Phèdre, avec la réapparition de figures mythologiques, et en même temps Cabaret. Donc pour moi, il y a les deux choses à ce moment-là. Et puis, donc Eugène liste, cite, le dit d'ailleurs, voilà, quels sont les modèles que j'ai choisis, il les recopie. Et ce serait trop simple, parce que s'il ne faisait que recopier, reprendre un modèle et puis en servir, ça serait un concept littéraire qui, à mon avis, n'irait pas très loin. Parce que très vite, on voit que de l'intérieur viennent les déflagrations silencieuses. C'est toujours silencieux, on ne s'en méfie pas. Mais il y a une déflagration intérieure, interne, qui fait que finalement le modèle explose. On ne sait plus du tout à quoi on a affaire. Alors on prend encore une fois que quelque chose se dit, se joue, se raconte, se passe. Et qu'on soit dans le clownesque de 1002 qu'on vient d'entendre, ou bien dans la comédie Neves et Naufrages, qui dit bien ce qu'elle raconte, ça vogue et ça coule en même temps. Rien n'advient jamais. Et j'ai, en relisant, pas toute l'œuvre de Jeanne, parce qu'effectivement elle est considérable, mais en relisant comme ça, avant de venir quelques fois pour cette soirée-là, quelques textes, je me suis dit finalement que ce théâtre, rien n'advient jamais dans les textes de Jeanne. Ou alors, quand c'est Oreste et Pylade, eux sont condamnés à commettre leur crime, puisque c'est déjà écrit. Donc quand les choses sont déjà écrites, il se passe quelque chose, mais si ça s'appelait Pierre, Jacques ou Paul, qu'est-ce qu'il ferait? Qu'est-ce qui se passerait? Peut-être qu'il ne se passerait absolument rien. Et cette mise en relation avec les modèles lui donne une incroyable liberté d'écriture, car il s'autorise tout. Il va partout, il reprend, il recycle non seulement les œuvres du passé, mais les siennes propres, comme il a dit lui-même tout à l'heure que la réécriture de « Il faut que lui mette tort pour que l'autre ait raison ». Et très souvent d'ailleurs, on est assez perturbé, déstabilisé quand on lit un texte de Jeanne, parce qu'on croit toujours, je dis, mais j'ai déjà vu ce morceau-là. Donc il y a un recyclage, moi qui m'intéresse énormément, parce qu'il le triture, il le reprend, il remanie son matériau personnel, et à l'infini. C'est une chose qui peut se passer, qui peut se produire à l'infini, c'est-à-dire il y a une grande relation intertextuelle, une grande trituration de tous ces éléments. Et donc, une fois que Jeanne a choisi sa forme, là, elle est trouvée, elle est répertoriée, elle est citée. il se trouve toujours que le fond ne joue pas le jeu. Il y a toujours quelque chose qui joue pas le jeu. Donc on revient aussi à ce que disait Michel Sapin sur l'inversion. Donc il met des choses en place pour quelque chose qui ne se passe jamais. La règle s'invente et pour être bafouée systématiquement. Donc ce n'est même pas un art du désordre. Je pense que c'est un art de la désobéissance. Effectivement, je pense que Gênes est un grand rebelle et que il crée des structures, il crée des formes, il crée des situations pour que finalement rien ne marche, rien ne naît. On pourrait dire tout ça pour rien. Et c'est très drôle parce que c'est vraiment l'art du désastre et en même temps c'est violent parce que le désastre est très violent. Et puis ce rien-là, qu'est-ce que c'est ? Ce rien laisse la place au seul acte possible qui est la langue poétique. Moi c'est alors son théâtre, effectivement ça n'est pas du théâtre, mais le théâtre, il l'a inventé, c'est le sien, c'est un théâtre de langue, en mouvement, etc. Et donc les premiers textes de Gênes me semblaient être des textes de silence. Je me souviens, bon, même dans Maison du Peuple, la première colère de Gênes en opéra, elle est chuchotée. C'est dit, murmurer, chuchoter. On ose dire quelque chose, mais on le dit encore à voix basse pour soi. Et puis petit à petit, le Gênes est passé à la rage. Et dans notre histoire commune, ça fait bien maintenant 15 ans qu'on se connaît et qu'on a longtemps fréquenté les mêmes endroits de travail, on a fait partie tous les deux de la rédaction, du comité de rédaction des Cahiers de Prospero. Et j'ai découvert un Eugène voyou, ce qui était une chose absolument impensable pour moi, c'est-à-dire qu'il était effectivement, il avait des colères tout d'un coup, des rages, ou alors des hurlements de rire, comme ça. Alors que c'était quelqu'un jusque-là de réputé très, très doux. Et dans ses textes aussi, il est passé petit à petit à la rage, à la harangue, quelquefois, mais comme un impondu de plus ou de moins, une pochade scénariste. Mais cette harangue est toujours une parole vidée, qui est proférée par des voix mal définies. C'est vrai qu'il n'y a pas de personnage, c'est vrai qu'on a du mal à savoir qui parle dans Maison du Peuple, qui est ce narrateur, est-ce qu'il y en a un, est-ce qu'il y en a plusieurs. Ce sont des paroles qui ne s'adressent souvent à plus personne. Est-ce que quelqu'un est encore là pour les entendre ? Ce sont souvent des lambeaux autodérisoires. Alors il y a des voix, alors, il y a des coryphées, des passeurs, des clowns, des intermittents, quelquefois effectivement des personnages dans les comédies qui sont nommés, etc. Et dans un impromptu de plus ou de moins, que je trouve un des textes les plus récents, je pense, qui est extrêmement important, c'est que finalement il nous dit que dans ce désert, s'il n'y avait plus un seul être humain, ça continuerait quand même à émettre des mots et du souffle, continuant à parler, en tout cas à prononcer, ça s'entêterait à produire du son qui servirait d'humain. Voilà, l'humain pourrait être que ça, simplement du souffle et du son, et puis au bout du souffle et du son, effectivement, il y a du sens, et les clowns s'y mettent. C'est vrai qu'il y a énormément de clowns, les clowns sont là aussi pour peut-être remplacer l'humain qui fait des clowns. Et dans ce texte aussi, Eugène dit que c'est un texte qui est là, qui gueule pour rien. Et pour moi, ce gueuler pour rien, c'est l'essentiel de l'acte théâtral et poétique d'Eugène. Donc je dis qu'il réinvente effectivement un théâtre en se servant des formes venues ou invenues, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement cultivé. J'ai jamais vu ça. Enfin, Eugène est quelqu'un qui m'étonnera toujours. C'est un théâtre de figures aussi déconstruites, de perspectives faussées, les visions d'un monde totalement éclaté. On a l'impression que les formes ne sont pas sur les fonds, que le fond manque de forme. Et voilà pour ce qui est son théâtre. Et puis, Eugène me dit, j'ai publié un roman, j'ai dit, ben, voilà Eugène Commencier. Et je me dis, eh ben voilà, quelqu'un qui, à mon avis, se méfie autant du roman que du reste. Et je lis donc ça le temps pour les vivants. Et ça commence comme un vrai roman. Et je me dis, Eugène m'épate parce que là, j'avais l'impression qu'il était rentré dans une forme, pour le coup, canonique, où on reconnaît, il y a un narrateur, des situations, une narration à peu près correcte, on va dire. Et puis, au beau milieu, patatras, évidemment, ça bascule. Ça croise, évidemment, ça divague, ça se met à divaguer pour le coup dans la forme. Et le modèle a disparu encore une fois. Le modèle explose au beau milieu de sa carrière. Au profit de quoi ? De la langue et effectivement des formes éclatées qui sont la nature même de l'écriture de Gênes. Donc on retrouve la fragmentation, les lambeaux, le bout, le morceau, puis toujours récente, cette colère qui prend le pas elle aussi sur la narration correcte. Donc Eugène le dit, il aime le dire, qu'il aime le carnavalesque, l'instable, ce qu'a dit aussi Michel Cerda, il brouille les échelles, les valeurs, le haut, le bas, la beauté. Alors la beauté, elle est où la beauté? C'est comme la métaphysique, elle n'est jamais là où on l'attend. Et c'est une écriture qui s'amuse de tout. C'est une écriture, donc je répète, dont on ne se méfie pas et qu'on n'a pas intérêt à prendre assez vite comme ça, parce qu'elle a l'air d'être, d'annoncer. Pour Eugène, les histoires sont de toute manière irracontables, sinon à quoi servirait d'écrire des histoires si elles n'étaient pas irracontables? Alors il les brouille pour mieux faire entendre toujours la même chose, sa langue. Alors sa langue, c'est quoi la langue d'Eugène Durif? C'est très très... On la reconnaît, on l'entend, je crois qu'on peut la reconnaître, parce que c'est par elle que tout advient finalement, puisque rien ne se passe jamais finalement, c'est par elle que le réel survient, s'impose, c'est par elle que le roman survient, s'impose, c'est par elle que le théâtre survient, s'impose, que la poésie s'impose, etc. Et la beauté de cette langue, elle est, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, elle est pas dans une correction, elle n'est pas dans la politesse, elle n'est pas dans l'élégance, elle est dans le côté estropié. Elle a ce côté langue malade, elle fonctionne par des tronçons, des locutions adverbiales, des proverbes, des archaïsmes, elle est lente, elle a des fins abruptes, elle se répète, elle a des retours sur elle-même, elle est sursaturée ou réduite à du bredouillis, comme on vient d'entendre là, sur des phrases qui ne s'achèvent pas, sur des choses où rien ne se dit, où on n'arrive pas à dire, et une langue à la fois, de l'autre côté, alors paradoxalement, extrêmement cultivée et extrêmement spectaculaire, nourrie, savante, référentielle, où on retrouve aussi les bruits littéraires, les échos des formes, le bric-à-brac linguistique, et où on retrouve l'opérette, la tragédie, la rite du Nel, enfin toutes les formes littéraires que Eugène connaît, va chercher un peu partout. Voilà, donc dans l'œuvre d'Eugène, puisque moi je n'arrive même plus à parler de théâtre, de roman, de poésie, pour moi c'est une seule et même œuvre. Les porteurs de paroles n'ont que la langue pour les faire vivre, ils n'ont que ça, alors ils ne s'en privent pas, et donc on a de la rancune, de son aveu, de sa plainte, de sa colère, de sa prière, de son incapacité à dire, et qui dit à mon sens plus que tout message bien articulé et parfaitement audible, de son incapacité à faire, et c'est une souffrance assez énorme et qui nous fait rire. Elle nous fait rire parce que c'est la nôtre. Et on se reconnaît dans ces dépressifs, ces exclus, ces incapables. Je dis, il n'y a que les figures mythologiques qui finalement accomplissent ces choses, puisque c'est déjà écrit. Et on débouche en général sur, assez brutalement, dès qu'on commence à lire, on débouche. On pourrait ne pas le voir, mais si on est un peu vigilant, on débouche toujours sur du chaos. Du chaos de théâtre, du chaos de forme, comme si de ce réel englouti dans les bas-fonds du langage, qui est là, mais tout au fond, il faut aller le voir, il faut aller le chercher, ne pouvait plus advenir comme langue sociale et poétique possible que celle-ci, celle qu'il invente, belle à force de traîner là où il ne faut pas. Voilà.